France Inter. Les admirations littéraires de
Alain Mabanco. Je suis très heureux ce soir de vous présenter mes admirations littéraires. J'ai choisi quelques grandes voix de la littérature africaine, de la littérature du monde, qui pourront accompagner ces admirations. C'est une démarche que je trouve intéressante pour la compréhension sans doute de notre univers, puisque l'imaginaire, la création font partie de cette espèce de patrimoine universel. Et dans ce patrimoine, il y a la littérature africaine, une littérature qui n'est pas forcément éloignée de la littérature française, puisqu'elles sont liées aussi bien par la langue, par l'histoire. La première émission, je pensais justement qu'il fallait la confier à une femme forte. Et parmi les femmes fortes de l'Afrique, en littérature, il y a cette grande dame qu'on appelait Mariama Ba et qui a écrit un livre extraordinaire devenu un classique de littérature mondiale, Une si longue lettre. Alors que la production littéraire africaine dans les années 50-60 était dominée par la plume masculine, ce n'est qu'à partir justement des années 70, après quelques années d'indépendance, que l'on verra vraiment apparaître les femmes dans le paysage littéraire africain d'expression française. Et c'est Mariama Ba, sans doute, qui va sonner le glas. Elle veut exprimer la condition des femmes enchaînées par les traditions. Mariama Ba, sénégalaise, née en 1929 à Dakar, va recevoir dans son enfance l'éducation traditionnelle et très pieuse de ses grands-parents. Et après quelques années, elle est encouragée par son père, alors ministre de la Santé, et une directrice d'école. Elle suit des études et passe le concours de l'école normale. Donc nous avons en face de nous une femme qui a étudié, une femme qui a reçu une éducation peut-être aux antipodes de ce que nous avons entendu jusqu'alors sur l'éducation en Afrique. Mariama Ba va enseigner pendant plus d'une douzaine d'années. Elle sera mère de 9 enfants. Puis elle va divorcer, puis elle va se remarier et elle va s'engager aussi dans le militantisme associatif. Elle va lutter contre les castes et la polygamie. Elle va réclamer une éducation pour tous et des droits véritables pour les femmes. Elle décède de maladie en 1981, juste 2 années après la publication de son roman Une si longue lettre, que je vais vous présenter ici comme étant une de mes premières admirations littéraires. La narratrice, qui s'appelle Ramatoulaye, est institutrice sénégalaise, tiens, comme l'autrice elle-même, et elle écrit à sa meilleure amie Aissatou après la mort de son mari Modou Fall. Elle raconte son deuil et sa douleur face à la trahison de Modou qu'il avait abandonné pour épouser une seconde femme beaucoup plus jeune. En parallèle, elle évoque aussi la trajectoire de son amie Aissatou, la destinataire de cette lettre et qui avait refusé, elle, la polygamie et choisi l'indépendance, quittant même le continent africain pour habiter en Amérique. À travers donc ces deux destins de femmes, la romancière Mariama Ba dénonce les injustices qui sont faites aux femmes et elle plaide pour une société plus juste. Donc dans cette narration intime, dans ce ton personnel et confessionnel, l'autrice dresse le portrait le plus saisissant des familles africaines ballottées entre les traditions africaines et la volonté de reconnaître à l'individu une existence loin des pressions de la communauté. C'est une langue poétique qui emporte les lecteurs, avec un lyrisme et une force des images qui resteront gravées dans votre mémoire. La première lettre, d'ailleurs, donne le ton de l'ouvrage. Ce passage montre le pouvoir de cette sororité de deux sœurs, de deux amies qui se disent les choses. Ramatoulaye s'adresse à son amie Aïssatou. Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapade, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous, nous avons usé pannes et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfoui dans les mêmes trous nos dents de lait en implorant Fée-Souris de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux, flux et reflux de sensations. Chaleur et éblouissement, les feux de bois, délices dans notre bouche gourmande, la mangue verte pimentée, mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux, flux et reflux d'images, visage ocre de ta mère constellé de gouttelettes de sueur à la sortie des cuisines, procession jacassante des fillettes trempées revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduites de l'adolescence à la maturité où le passé féconde le présent. Ami, 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 je t'appelle trois fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Maudou est mort. Comment te raconter? On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit. J'ai subi le coup de téléphone qui bouleverse ma vie. J'écoute des mots qui créent autour de moi une atmosphère nouvelle où j'évolue, étrangère et crucifiée. La mort, passage ténu entre deux mondes opposés, l'un tumultueux, l'autre immobile. Tranche de ma vie jaillit inopinément de ma pensée, verset grandiose du Coran, parole noble consolatrice se dispute mon attention. Miracle joyeux de la naissance, miracle ténébreux de la mort, entre les deux, une vie, un destin, dit Maodo Ba. Je regarde fixement Maodo. Il me paraît plus grand que de coutume dans sa blouse blanche. Je le trouve maigre. Ses yeux rougis témoignent de 40 années d'amitié. J'apprécie ses mains d'une beauté racée, d'une finesse absolue, mais souple, habituée à dépister le mal. Ces mains-là, mues par l'amitié et une science rigoureuse, n'ont pu sauver l'ami. J'ai découvert, comme beaucoup d'enfants africains, le roman de Mariama Ba à l'école primaire. Nous récitions des pages, on appelait ça récitation. Puis plus tard, lorsque je suis arrivé au lycée, j'ai relu les livres et je me suis dit « Mais ce livre parle de nous, ce livre parle de moi, ce livre parle de ma mère, de mon père, de sa deuxième femme. » Donc, Mariama Ba a écrit ce livre pour notre famille. Et c'est pour ça que cette sorte d'écriture limpide, cette sorte de facilité dans l'écriture a toujours été pour moi le modèle même de recherche, de perfection. La sobriété est peut-être la plus belle leçon de l'écriture et elle se trouve dans ce livre de Mariama Ba. Je me promène avec, je l'enseigne quand je peux, je l'ai enseigné au Collège de France et voilà que il fait partie de mes admirations littéraires ici à France Inter.
Est-ce que vous aimez la polygamie ?
Pas du tout.
Je ne préfère pas la polygamie.
Et pourquoi?
Ah voilà, je voudrais être seule avec mon mari. Je l'aime beaucoup. Et lui aussi, je crois qu'il m'aime.
Est-ce que la polygamie disparaîtra?
Ça, c'est difficile à dire. Ça dépend des femmes.
Écoutons encore un autre extrait pour voir combien cette sorte de proximité entre les deux femmes va nous ouvrir les portes de la connaissance de ce qu'elles vivaient à ce moment-là. Dans cet extrait, Ramatoulaye essaye d'avoir un examen de conscience et nous trace les contours peut-être de son âme troublée par la mort de son mari. Mais il y a aussi les éléments de la polygamie qui commencent à s'installer peu à peu. J'étais quitté hier en te laissant stupéfaite, sans doute, par mes révélations. Folie, veulerie, amour irrésistible. Quel bouleversement intérieur a égaré la conduite de Modoufal pour épouser Binetou. Pour vaincre ma rancœur, je pense à la destinée humaine. Chaque vie recèle une parcelle d'héroïsme, un héroïsme obscur, fait d'abdication, de renoncement et d'acquiescement sous le fouet impitoyable de la fatalité. Je pense aux aveugles du monde entier qui se meurent dans le noir. Je pense aux paralytiques du monde entier qui se traînent. Je pense aux lépreux du monde entier que leur mal ampute. Victimes d'un triste sort que vous n'avez pas choisi, que sont à côté de vos lamentations, mais démêlés, motivés cruellement avec un mort qui n'a plus de mainmise sur ma destinée. Et justicier, vous auriez pu, en liguant vos désespoirs, rendre tremblants ceux que la richesse enivre, ceux que le hasard favorise. Vous auriez pu, en une horde puissante de sa répugnance et de sa révolte, cracher le pain que votre faim convoite. Votre stoïcisme fait de vous non des violents, non des inquiétants, mais de véritables héros, inconnus de la grande histoire, qui ne dérangent jamais l'ordre établi malgré votre situation misérable. Je répète, que sont à côté de vos tares visibles les infirmités morales dont vous n'êtes d'ailleurs pas à l'abri. En pensant à vous, je rends grâce à Dieu de mes yeux qui embrassent chaque jour le ciel et la terre. Si la fatigue morale m'ankylose aujourd'hui, elle désertera demain mon corps. Alors ma jambe délivrée me portera lentement et à nouveau j'aurai autour de moi l'iode et le bleu de la mer. Seront miens l'étoile et le nuage blanc. Le souffle du vent rafraîchira encore mon front. Je m'étendrai, je me retournerai, je vibrerai. Ô santé, habite-moi, ô santé. Mes efforts ne me détournent pas longtemps de ma déception. Je pense au nourrisson orphelin à peine né. Je pense à l'aveugle qui ne verra jamais le sourire de son enfant. Je pense au calvaire du manchot. Je pense, mais mon découragement persiste, mais ma rancœur demeure, mais déferlent en moi les vagues d'une immense tristesse. Folie ou veulerie, manque de cœur ou amour irrésistible. Quel bouleversement intérieur a égaré la conduite de Modoufal pour épouser Binetou. Et dire que j'ai aimé passionnément cet homme, dire que je lui ai consacré 30 ans de ma vie, dire que j'ai porté 12 fois son enfant, l'adjonction d'une rivale à ma vie ne lui a pas suffi. En aimant une autre, il a brûlé son passé moralement et matériellement. Il a osé pareil reniement. Et pourtant, que n'a-t-il fait pour que je devienne sa femme ?
Do.
Qu'il s'agit de la condition féminine en Afrique. Il s'agit de lutter contre l'oppression, la trahison. Et il s'agit d'installer les moments de résistance dans la vie de ces deux femmes. Comment peut-on prendre la parole en étant femme en Afrique? Alors que jusqu'alors, les femmes avaient la parole par procuration. Ce sont leurs maris qui parlaient en leur nom. Dans le chapitre 6 qui va suivre, on va aller probablement dans les souvenirs qui réunissent les deux femmes et on verra combien leur passé est aussi important que leur présent. Tu te souviens de ce train matinal qui nous emmena pour la première fois à Pontyville, cité des Normaliens dans Sébikotan. Pontyville, c'est la campagne encore verte de la douche des dernières pluies. Une fête de la jeunesse en pleine nature, des mélodies de banjo dans les dortoirs transformés en pistes de danse, des causeries le long des allées de géranium ou sous les manguiers touffus. Modoufal, à l'instant où tu t'inclinas devant moi pour m'inviter à danser, je sus que tu étais celui que j'attendais. Grand et athlétiquement bâti, certes, teint ambré dû à ta lointaine appartenance mauresque, certes aussi. Virilité et finesse des traits harmonieusement conjugués, certes encore. Mais surtout, tu savais être tendre. Tu savais deviner toute pensée, tout désir. Tu savais beaucoup de choses indéfinissables qui t'auréolaient et scellèrent nos relations. quand nous dansions, ton front déjà dégarni à cette époque se penchait sur le mien. Le même sourire heureux éclairait nos visages. La pression de ta main devenait plus tendre, plus possessive. Tout en moi acquiesçait et nos relations durèrent à travers années scolaires et vacances, fortifiées en moi par la découverte de ton intelligence fine, de ta sensibilité enveloppante, de ta serviabilité, de ton ambition qui n'admettait point la médiocrité. Cette ambition t'a conduit à ta sortie de l'école, à la préparation solitaire de tes deux baccalauréats. Puis tu partis en France, y vécus selon tes lettres, en reclus, accordant peu d'importance au cadre étincelant qui gênait ton regard. Mais tu embrassais le sens profond d'une histoire qui a fait des prodiges et d'une immense culture qui te submergeait. Le teint laiteux des femmes ne te retint pas. Toujours selon tes lettres, ce que la femme blanche possède de plus que la négresse sur le plan strictement physique est la variété dans la couleur, l'abondance, la longueur et la souplesse de la chevelure. Il y a aussi le regard qui peut être bleu, vert, souvent couleur de miel neuf. Tu te lamentais aussi de la morosité des cieux où ne se balance nulle coiffe de cocotier. Te manquait le dandinement des négresses le long des trottoirs, cette lenteur gracieuse propre à l'Afrique qui charmait tes yeux. Tu concluais en te disant arc-bouté aux études. Tu concluais en dévidant des tendresses. Tu concluais en me rassurant « C'est toi que je porte en moi. Tu es ma négresse protectrice. » Vite te retrouver rien que pour une pression de main qui me fera oublier faim et soif et solitude. Et tu revins, triomphant, licencié en droit, à la parade de l'avocat. Malgré ta voix et tes dons d'orateur, tu préféras un travail obscur, moins rémunéré, mais constructif pour ton pays. Tes prouesses ne s'arrêtèrent pas là. L'introduction dans notre cercle de ton ami Maudoba changera la vie de ma meilleure amie Aïssatou. Si dans une si longue lettre, Mariama Ba s'adresse aux Africaines, on se rend compte qu'il s'agit là d'un livre qui surpasse le cadre d'un continent. Il parle à toutes les femmes du monde et j'espère aussi à tous les hommes de ce monde. C'est le chapitre 7 qui montre comment la perception du monde de Mariama Ba aura changé parce que cette femme aura emmené de la lumière dans les ténèbres dans lesquelles elle se retrouvait. Aïssatou, je n'oublierai jamais la femme blanche qui, la première, a voulu pour nous un destin hors du commun. Notre école, revoyons-la ensemble, verte, rose, bleu, jaune, véritable arc-en-ciel, vert, bleu et jaune, couleur de fleurs qui envahissaient la cour, rose, couleur de dortoir aux lits impeccablement dressés, notre école, entendons vibrer ces murs de notre fougue à l'étude. Révivons la griserie de son atmosphère, les nuits alors que retentissait pleine d'espérance la chanson du soir, notre prière commune, le recrutement qui se faisait par voie de concours à l'échelle de l'ancienne Afrique occidentale française, démantelée aujourd'hui en république autonome, permettait un brassage fructueux d'intelligence, de caractère, de mœurs et coutumes différents. Rien n'y distinguait si ce n'était les traits spécifiquement raciaux, la fond du Dahomey et le Malinké de Guinée. Des amitiés si nouées qui ont résisté au temps et à l'éloignement, nous étions de véritables sœurs destinées à la même mission émancipatrice. Nous sortir de l'enlisement des traditions, superstitions et mœurs, nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre, élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts, faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle, voilà la tâche que s'était assignée l'admirable directrice. Le mot « aimer » avait une résonance particulière en elle. Elle nous aima sans paternalisme, avec nos tresses debout ou pliées, avec nos camisoles, nos pagnes. Elle sut découvrir et apprécier nos qualités, comme je pense à elle. Si son souvenir résiste victorieusement à l'ingratitude du temps, à présent que les fleurs n'encensent plus aussi puissamment qu'autrefois, c'est que la voie choisie par notre formation et notre épanouissement ne fut point hasard. Elle concorde avec les options profondes de l'Afrique nouvelle pour promouvoir la femme noire. Si longue lettre de Mariama Ba reste d'actualité dans les débats contemporains sur l'égalité homme-femme. La polygamie et l'éducation en Afrique demeurent des domaines dans lesquels les femmes continuent à payer une addition présentée par des sociétés qui ont encore les séquelles de la domination masculine. Je repense aussi à ma propre existence où ma propre mère était dans une situation de polygamie. Elle était certes la deuxième femme. On a toujours pensé que la deuxième femme... Remarquez que je ne dis pas seconde femme, parce que si c'est la seconde femme, il n'y aura pas la troisième. Donc ma mère était la deuxième femme. Je voyais bien comment le père avait toujours une certaine affection particulière pour la dernière qui était venue. Ils sortaient ensemble, ils la présentaient partout. Tandis que la première mère, maman Martine, elle, restait à la maison. Elle préparait, Elle attendait. Elle était devenue pratiquement un personnage effacé du paysage familial. On ne la voyait que pour la gestion des affaires quotidiennes. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Qui s'occupera des enfants? Et dans ce sens, une si longue lettre de Mariam Abba est peut-être le texte qui aura réveillé, aura peut-être tiré la sonnette d'alarme. C'est parce que c'est peut-être ce livre qui a introduit l'insolence féminine dans la littérature africaine. Et c'était très bien pour nous parce qu'il manquait de cette insolence. L'insolence étant les débuts même d'une littérature libre, indépendante, où le texte n'a pas de nationalité, est une promesse littéraire. Et le plus souvent, nous la tenons. Les dernières pages de ce livre, de ce récit épistolaire, puisque l'ensemble est construit sous la forme de lettres adressées à son ami, nous donne finalement la philosophie de Mariam Abba, montre à quel point son écriture a une dimension universelle. À demain, mon ami. Nous aurons donc du temps à nous, Aïssatou. D'autant plus que j'ai obtenu la prolongation de mon congé de veuvage. Je réfléchis. Cette tournure de mon esprit ne te surprend guère. Je ne pourrais m'empêcher de me livrer à toi. Autant me résumer ici. Les irréversibles courants de libération de la femme qui fouettent le monde ne me laissent pas indifférente. Cet ébranlement qui viole tous les domaines révèle et illustre nos capacités. Mon cœur est en fait chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais, mouvant le terrain des acquis, difficile la survie des conquêtes, les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mâle résiste. Instrument des uns, à pas pour d'autres, respecté ou méprisé, souvent muselé, toutes les femmes ont presque le même destin que des religions ou des législations abusives ont cimenté. Mes réflexions me déterminent sur les problèmes de la vie. J'analyse les décisions qui orientent notre devenir. J'élargis mon opinion en pénétrant l'actualité mondiale. Je reste persuadé de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, si imparfait soit-il dans son contenu et son expression, demeure le joint naturel entre ces deux êtres. S'aimer, si chaque partenaire pouvait tendre sincèrement vers l'autre, s'il essayait de se fondre dans l'autre, s'il assumait ses réussites et ses échecs, s'il exauçait ses qualités au lieu de dénombrer ses défauts, s'il réprimait les mauvais penchants sans s'y appesantir, s'il franchissait les repères les plus secrets pour prévenir les défaillances et soutenir en pensant les mots tus. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale. Comme l'accord de multiples instruments crée la symphonie agréable. Ce sont toutes les familles, riches ou pauvres, unies ou déchirées, conscientes ou irréfléchies, qui construisent la nation. La réussite d'une nation passe donc irrémédiablement par la famille. Pourquoi tes fils ne t'accompagnent-ils pas? Ah, les études! Ainsi, demain, je te reverrai en tailleur ou en robe maxi. Je parie avec Daba, le tailleur, habitué à vivre loin d'ici. Tu voudras, je parie encore avec Dada, table, assiette, chaise, fourchette. Plus commode, diras-tu, mais je ne te suivrai pas. Je t'étalerai une natte, déçu, le grand bol fumant où tu supporteras que d'autres m'impuisent. sous la carapace qui te raidit depuis bien des années, sous ta moue sceptique, sous tes allures désinvoltes, je te sentirai vibrer peut-être. Je voudrais tellement t'entendre freiner ou nourrir mes élans comme autrefois, et comme autrefois te voir participer à la recherche d'une voix. Je t'avertis déjà, je ne renonce pas à refaire ma vie. Malgré tout, déception et humiliation, l'espérance m'habite. C'est de l'humus sale et nauséabond que jaillit la plante verte et je sens pointer en moi des bourgeons neufs. Le mot bonheur recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas? J'irai à sa recherche. Tant pis pour moi si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre. Ramatoulaye. Je tiens à remercier l'équipe à la préparation. Il y avait Perrine Malinge, Loïc Moreau était à la technique, Thierry Dupin à la programmation musicale, Maria Pasquet à la réalisation. Je vous dis à la semaine prochaine.